Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Aujourd'hui avec deux interviews, il y aura une interview de François Desagna et du dessinateur Fab Caro pour Zaï 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 Zaï. Et puis Maria de Medeiros, parce que tu l'as vu, Guillaume.
Oui, à l'occasion de la sortie de son film À nos enfants.
Et puis tu as vu un autre film que tu as moins apprécié.
Oui, c'est moins flamboyant, mais c'est quand même un film de Patrice Lecomte, c'est Maigret.
Et puis toi, Manu, tu es allé du côté de la Géorgie.
Oui, avec un film qui s'appelle Sous le ciel de Koutaïssi, un film de 2h30.
Et nous parlerons aussi de After Blue, le dernier film de Bertrand Mandicot. Voici le sommaire de Cinérama et on commence par Gérard Depardieu qui est Maigret dans un film de Patrice Lecomte.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
Oui, oui, oh, ça va.
La victime non identifiée, le sexe féminin. On relève 5 plaies par arme blanche. Les coups ont été donnés de manière désordonnée à bout portant.
Qui est chargé de l'enquête?
Maigret, brigade criminelle, 36 quai des Orfèvres.
Si Maigret est une figure bien connue encore aujourd'hui du paysage audiovisuel, il semble important de rappeler que ce dernier n'a pas bénéficié de la largesse du grand écran depuis plus de 50 ans. Décliné jusqu'à très récemment dans La Petite Lucarne, il aura séduit tout un panel d'auteurs et d'acteurs aussi divers que Jean Richard, Bruno Kremer ou encore l'inattendu Rowan Atkinson, oui oui, Mr Bean en personne, pas plus tard qu'en 2016 dans une version visuellement très ambitieuse. L'annonce de son retour par la grande porte est donc un petit événement en soi, hein, surtout que le réalisateur chargé d'adapter Georges Simenon est Patrice Lecomte, réalisateur, il faut bien le dire, inégal, capable des problématiques Bronze et Trois ou Une heure de tranquillité, mais aussi des brillants La fille sur le pont, Tandem ou Ridicule, et qui avait déjà adapté avec brio un roman de Simenon avec Monsieur Hire. Laissant sa place à un Daniel Auteuil un temps envisagé, c'est l'ogre Gérard Depardieu qui sert de réceptacle au commissaire dans une adaptation de Maigret et la jeune morte. Preuve de cette appropriation par son réalisateur, le film ne s'intitule plus que Maigret et, à l'image de l'interprétation de Depardieu, va à l'épure tant dans son enquête que dans sa forme. Ce laconisme est le premier des problèmes rencontrés par cette version 2022.
Quelqu'un a voulu faire disparaître cette jeune fille inconnue, mais elle a forcément laissé des traces, là, quelque part.
Comment vous faites pour qu'ils parlent, vos suspects?
Rien. Je les écoute. Mon devoir est de chercher ce qu'on appelle la vérité.
Ça vous intéresse vraiment que je vous raconte ma vie?
Ça m'aide un peu à comprendre, une fille comme toi.
Elle s'appelait Louise.
Pourquoi avez-vous dit elle s'appelait?
J'ai entendu une auto s'arrêter.
Concentre-toi sur les chauffeurs de taxi, surtout ceux qui font la nuit.
C'est pour la fille morte que vous faites tout ça?
Il faut se protéger, ne pas être insensible.
Quand on perd son enfant, on perd tout. Il n'y a plus rien, vous savez.
Je sais, monsieur Kaplan.
Nous sommes plongés dans la France des années 50, un Paris lugubre et mystérieux, mais nous n'en verrons pas grand-chose. La mise en scène est étonnamment sobre dans son ambition, quand elle n'étonne pas par sa caméra à l'épaule qui contraste fortement avec le calme des situations et du commissaire enquêteur. L'enquête elle-même est riche par la description minutieuse du modus operandi de Maigret qui satisfera les amateurs d'intrigues policières, mais ne fait jamais d'étincelle jusque dans son final calme et presque apaisé. Il y a bien sûr cette idée intéressante que Maigret cherche à aider une jeune fille à travers la mort tragique d'une autre et ainsi faire un lien avec sa propre fille qu'il a perdue au même âge, mais tout cela n'éclabousse pas assez la toile et on s'imagine bien plus apprécier le spectacle chez soi, ben, comme c'est le cas avec Maigret depuis plus de 50 ans. Même la célèbre pipe est absente du film, Maigret ayant des soucis de santé. Au scénario, Jérôme Tonnerre ne fait donc pas beaucoup plus d'éclat que sa participation à celui d'un autre emblème audiovisuel et télévisuel, l'adaptation affreuse de Belphégor en 2001, même si on est loin de l'échec terrible du navet de Jean-Paul Salomé. Maigret 2022 est donc déceptif et figure de film de retraité à tous les niveaux, alors que l'évident potentiel était là. Reste deux choses qui se démarquent du lot. Il y a la musique toujours réussie de Bruno Coulet, bah tiens, lui aussi au générique de Belphégor, mais aussi du Vidocq de 2001, une autre adaptation problématique d'un mythe de la télévision. Et la jeune Jade Labeste, fraîchement arrivée dans le monde du cinéma et qui compose une Betty attachante et assurément à suivre. Ce Maigret devrait lancer sa carrière. Ou comment faire enfin du vrai neuf avec du vieux, en somme.
Maigret sans sa pipe, c'est en salle depuis le 23 février. Tout comme Zaï, 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 adaptation de la célèbre BD de Fab Caro.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Adapter une BD à l'écran n'est pas toujours un exercice facile. On est abonné à Astérix ou Petit Nicolas, alors des titres où on se dit ma foi, si c'est raté, c'est pas grave. Mais il en est autrement pour la BD Underground, comme Zaï, 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 Zaï de Fab Caro, qui fut un succès de librairie en 2015. Adapté en pièce radio au théâtre, il est maintenant adapté au cinéma. Et pour s'en charger, François Desagna, dont la filmographie ne brille pas vraiment par l'audace. Alors qu'il en faut quand même pour adapter une BD dans laquelle un type est poursuivi parce qu'il n'a pas sa carte Carrefour au moment de passer à la caisse. Zaï, 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 Zaï est un road movie absurde, mais une fois admis le point de départ, tout est logique. C'est un monde fantaisiste hilarant où un poireau devient une arme. Alors j'ai regardé le film avec beaucoup de crainte, mais François Desagna s'en tire très bien. Et comme c'est un road movie, le film est une juxtaposition de séquences avec seulement quelques personnages récurrents. Les autres ont une ou deux séquences et s'en vont. Et c'est ça qu'il fallait réussir, garder une unité dans le récit et le jeu. Et donc du coup, c'est réussi. Alors évidemment, on imaginerait ça encore plus fou, plus débraillé, mais on rit volontiers. Et pour une comédie, ce n'est pas volé. On écoute François Desagna, le réalisateur, et Fab Caro, ou Fabrice Caro, l'auteur de la BD, puisque nous les avons rencontrés.
Allez Fabrice, fais pas le con. Rends-toi et tout se passera bien.
Qu'est-ce que t'as fait?
En fait, j'ai fait des courses. J'avais pas ma carte de fidélité.
Quoi?
Tu oses venir te planquer ici?
Ce matin, j'ai changé de pantalon.
Oui, bien sûr, et comme par hasard.
Bah oui, il était sale.
On arrête de faire le mariole. Vous me suivez, s'il vous plaît.
Oh, qu'est-ce que vous foutez? Fais pas le con, lâche le poireau. Ne m'oblige pas à faire une roulade arrière.
Comme beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont découvert, moi j'ai eu d'abord un choc comique auquel je m'attendais pas du tout, quand j'ai ouvert la BD, quand je l'ai découverte. Et ensuite, alors bon, j'ai une déformation professionnelle, c'est-à-dire que dès que j'ouvre une BD, un bouquin, je me pose toujours la question, je me dis, est-ce qu'il y a un film? En général, j'abandonne l'idée au bout de 10-15 pages. Et puis, si c'est bien, je continue à lire. Hein, c'est pas pour autant que j'arrête. Mais là, oui, c'est vrai que il y avait un ton qui était tellement particulier qui, par ailleurs, avait une connexion avec une partie de comédie française que j'avais l'impression qu'il ne se faisait plus vraiment. Voilà, mon envie, c'est juste eu une envie de spectateur au départ, c'est-à-dire, je me dis, voilà, j'avais très envie de voir ça sur un écran de cinéma, en fait.
Fabrice, rends-toi aux autorités compétentes. En même temps, fuis, Fabrice, fuis. Et je ferai en sorte que Gérard, notre fils, puisse grandir avec l'image du père que tu as toujours été pour lui.
La particularité de la BD de Fabrice, c'est que la grande majorité des planches, au-delà de la situation absurde ou du dialogue absurde, raconte un truc en sous-texte, justement. On évoquait le système médiatique, et la société de consommation, et les réseaux sociaux, voilà. Et puis la nature humaine, d'une manière générale. Donc à chaque fois, ça vient souligner. C'est pas des critiques, en fait. C'est un regard un peu féroce qui gratigne un petit peu. Puis quelquefois, c'est aussi... Ça vient tendre un peu une sorte de miroir, en fait, à plein de gens. Et je pense que c'est pour ça que ça parle aussi à beaucoup de monde.
Est-ce qu'il est comme nous, le papa de Gérard? Non, pas toi, Malek. Oui, Joé.
Je voudrais que tu dises à Gérard combien je regrette toutes ces parties de Uno que j'ai refusé de faire avec lui.
Excusez-moi, monsieur, mais vous vous êtes trompé de numéro, là. Par contre, pour le Uno, je suis un peu comme vous. Au bout d'un moment, ça me gâche.
Je trouvais ça... c'est un temps tellement décalé... Bon, c'est facile de faire très décalé en BD, en fait. Voilà, c'est pensé pour de la BD. Donc. Mais après, l'adapter au cinéma, non, ça a été une surprise. Je te l'ai dit, d'ailleurs. J'étais le premier surpris, en fait. Mais après, une fois que le film est fait, qu'on le voit, on se dit, en fait, c'était faisable. Mais au début, non, je trouvais que c'était un pari assez audacieux.
Sans transition, on parle de Fabrice, l'acteur de comédie qui est toujours activement recherché par la police.
Ce qui nous portait dans Zaï, 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 c'est que c'était à la fois très absurde et, comme je disais tout à l'heure, ça raconte quelque chose toujours en sous-texte. Et en fait, le fait de jamais, dans tout ce qu'on rajoutait, ne jamais être gratuit et toujours raconter quelque chose comme Fabrice le fait dans la BD, c'était quelque chose c'était une ligne directrice qu'on s'était donnée.
Moi, je le traite très premier degré dans la BD, c'est-à-dire comme si c'était un vrai road movie avec une vraie fuite, une vraie angoisse. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on s'était dit, qu'il fallait que ce soit joué très premier degré. Et c'est ce qui crée le décalage. Parce que de l'absurde sur de l'absurde, ça aurait... Là, c'est une vraie angoisse, cette histoire de carte. Pour...
Il y a le point de départ qui est absurde, à partir de... et après, finalement, tout est logique par rapport à ce point de départ. En fait.
Sophie Galibert ?
Pardon ?
On était ensemble en quatrième, Fabrice.
T'as le temps de venir boire quelque chose ?
Ah oui, plaisir.
Incroyable ! Fabien.
Fabrice.
Ouais, super. Jean-Pierre, je te présente Fabien, c'est un camarade de collège que je viens de croiser par hasard.
Bah enchanté, Fabien.
Fabrice. Enchanté.
Bah moi, j'ai connu un Fabien, mais il était de Tarbes.
Ah. Je sais plus combien, on a un peu plus de 70 rôles parlants dans le film, ce qui est assez énorme. Et puis il fallait qu'en effet tout le monde soit au diapason et que le mec le comédien ou la comédienne qui arrivait juste pour une demi-journée et qui avait deux répliques, il fallait qu'il soit au même niveau que tous les autres. Après, j'ai envie de dire, c'est l'enjeu de tous les films, il faut que à chaque fois, enfin bon, ce serait idiot de dire non, mais en fait il y a une partie du second rôle, je m'en fous, et s'il joue mal, bah non. Et on a évidemment envie que tout le monde joue bien tout le temps et que tout le monde soit au même niveau. La BD existait, que je pense que 95% des comédiens qui sont venus faire des essais connaissaient la BD, avaient envie de se frotter à cet humour. Je pense que c'est un terrain de jeu qui est vraiment génial pour un comédien. Et donc il y avait déjà un feeling, il y avait déjà une connaissance en fait du truc. C'est-à-dire que moi, là où pour moi c'était plus facile, c'était que j'avais pas non plus à devoir expliquer, et surtout je pense que j'aurais eu du mal à trouver, parce que je pense que même toi tu saurais pas expliquer exactement le mécanisme de l'humour et comment dire à un comédien c'est drôle parce que comme ça, donc il faut le jouer de cette manière là
mais si sa mère tenait une boutique de vêtements.
Ouais,
bah, non je suis désolé, je peux pas le... Bah alors faut pas dire que vous êtes de Tarbes, hein. Zay, 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 zay.
Écoutez, bah, je vous propose qu'on prenne un verre, hein, pour compenser l'ambiance qui a un peu de mal à prendre.
Ouais. Carrément, Fabien.
Allez.
Nous écoutions François Daniel, le réalisateur, et le dessinateur Fab Caro pour Zaï 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 en salle depuis le 23 février. En Calamity Jane, futuriste, topless et lesbienne, Vima Laponce est dans After Blue, le dernier film de Bertrand Mandico.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Écoutez ma voix. Vous n'êtes plus sur votre planète. Vous êtes dans l'espace.
Nous sommes dans un futur lointain, sur une planète inconnue, dangereuse, où ne vivent que des femmes à moitié nues et surtout très armées. Un monde où règne la loi du plus fort et où il faut tirer la première pour survivre. Roxy, une adolescente mal aimée, que tout le monde appelle toxique, délivre une femme prisonnière des sables qui s'avère être en réalité une dangereuse criminelle. Une fois libérée, Kate Bush, c'est son nom, massacre les femmes de la communauté. Toxique, tenue pour responsable, est contrainte de partir avec sa mère Zora, une simple coiffeuse peu valeureuse, pour retrouver la tueuse et l'abattre. Armées de leur Louis Vuitton et de leur Paul Smith, le nom de leur flingue, elles partent pour un voyage dangereux sur une terre sans pitié.
Katarzyna Buchowski.
Vous la connaissez ?
Kate Bush. La milice l'avait ensablée.
Mais ta fille s'est crue plus forte que la loi.
Elle est persuadée d'être le bras vengeur d'After Blue.
Pourquoi tu leur as dit que t'avais déterré Kate Bush ?
Pourquoi tu leur as dit ?
Sous-titré Paradis sale, la dernière errance onirique de Bertrand Mandico, l'un des rares réalisateurs français qui semble vraiment faire ce qu'il veut, nous entraîne sur une autre planète. Comme dans Les garçons sauvages, cette planète a une flore dangereuse, gluante et très sexuelle. Et ce n'est pas le seul point commun avec son précédent film, somptueux, sorti il y a 3 ans. Dans Les garçons sauvages, 4 jeunes hommes violents se transformaient en femmes. Avec After Blue, Mandico poursuit une trilogie qui bouscule le genre et invente un western qui redéfinit la virilité. Ici, les femmes font la loi, les seins à l'air et s'entretuent. À l'origine de ce western de science-fiction, il y avait un scénario écrit pour Guillaume Depardieu et Maurice Garrel, entre autres, qui prenait place de façon assez classique aux États-Unis au XIXe siècle. Et après la mort des comédiens, Bertrand Mandico décide de reprendre le même scénario sans rien y changer, mais en choisissant une distribution intégralement féminine. En découle un film étrangement militant, même si ça n'est sûrement pas son intention première, et un cinéma habité par une créativité totalement débridée qui semble ne souffrir d'aucune barrière. à part peut-être celle du budget. Mais la suspension d'incrédulité fonctionne ici à plein régime et on se laisse glisser volontiers dans ce conte sensuel au décor en carton-pâte.
Elle ressemble à quoi, Kate Bush? Comment elle est vraiment rancunière?
Tu veux me tuer, c'est ça?
Je sens que c'est Kate Bush. Pas ma bouche.
Kate Bush! Non, tu as des pixels de blanchissage!
Quand Kate Bush sera là, il faudra bien que tu tires. Elle n'hésitera pas.
La Terre, elle était malade. Alors on a trouvé After Blue.
Le mixage son, comme toujours chez Mandico, est ici très important et participe en immense partie à la dimension hypnotique de l'entreprise. Un dialogue entre le personnage principal et une voix qui l'interroge, dont nous ne verrons jamais le visage, fait office de voix off, dans un ton totalement désincarné qui évoque la mélodie d'Hiroshima, mon amour. Mandico joue sur les doublages également, sur la post-synchro comme dans Les Garçons Sauvages, en faisant se doubler les comédiennes, mais avec des tons différents de ceux qu'elles ont lors des prises de vue. Et s'ajoute à cela une ambiance sonore faite de bruits buccaux, de sons électroniques, comme par exemple pour les hennissements des chevaux, et de musique disco. Rescapé de « Comment je suis devenu super-héros » sur Netflix, un horrible film dans lequel les producteurs avaient osé l'atteindre en blonde et lui donner un insipide rôle de flic, Vimala Ponce revient ici devant la caméra de celui qui la filme le mieux avec Antonin Perejadko. En Calamity Jane, futuriste, topless et lesbienne, oui ça fait beaucoup d'adjectifs, elle est simplement prodigieuse, habitée par son rôle au point qu'on ne reconnaît pas immédiatement la fille du 14 juillet. Et puis After Blue permet également à Elina Lowenson, la muse de Al Hartley, aujourd'hui celle de Mandico, son compagnon, de s'épanouir dans un rôle important en tueuse condamnée à achever une proie qu'elle n'a pas choisie. Entre le film et le fantasme de cinéma, After Blue sidère par sa grande liberté. Alors il faut prendre le film comme une montée de LSD, hein, ne pas chercher à lutter, nous laisser aller dans cette rêverie violente, sensuelle, dérangeante. Et on ressort de ce film en étant reconnaissant au cinéma français de permettre à des pépites underground de cet acabit d'arriver jusqu'à nous. Après, si les trois premiers quarts du film passent étonnamment vite, hein, la dernière demi-heure s'avère un petit peu longue car le film dure quand même 2h10. En tout cas, on a hâte de savoir comment Bertrand Mandico va s'emparer du sujet de son prochain film, lui aussi exclusivement féminin, puisqu'il s'agira d'une relecture de Conan le Barbare.
Manu, tu as vu le film de Bertrand Mandico ?
Oui, ça ne m'a pas fait vraiment de monter de LSD, mais je suis globalement d'accord, sauf que je mettrai un petit bémol parce que je trouve que le film est effectivement trop long. Et puis, dans ce maelstrom d'images poétiques, oniriques et fabuleuses, on est un peu entre le film queer, la série Z italienne même, et puis le western. Le film provoque un trop-plein. On est un peu asphyxié, un peu étouffé par cet univers complètement en vase clos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Le film manque vraiment de respiration. Il n'y a pas une minute sans son, enfin il y a pas de, il y a aucun silence et puis ouais voilà, le film provoque comme ça un côté étouffant, mais après c'est une expérience assez étonnante, hein. C'est un peu une excroissance de cinéma au carrefour d'un peu tous les arts.
À vous de vous faire une idée, allez voir After Blue, ce film est en salle depuis le 16 février. Une plongée dans le Brésil de Bolsonaro avec un mélo comico tragique, c'est à nos enfants et c'est la deuxième interview de cette émission.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique, invité et nouvelle du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire ?
À nos enfants et le destin croisé entre Vera et sa fille. La première dirige un orphelinat et a été une victime politique dans les années 70 de la dictature. Et la seconde, lesbienne, cherche à avoir un enfant par PMA dans le Brésil abrasif actuel. À nos enfants a su prendre un texte complexe sur un sujet clivant pour en faire un bel objet de cinéma universel. Loin d'une adaptation convenue d'une pièce de théâtre, il y a toute une batterie d'artifices propres au cinéma déployés qui permettent de dépasser la force du propos pour en cerner les enjeux humains et intemporels. L'expérience passée de Vera trouve un écho puissant dans la recherche de maternité et de légitimité de sa fille, véritable construction en miroir d'une société qui, plus d'une fois, voit entrer en collision une progression naturelle et horizontale avec un ordre social et idéologique vertical. Les magnifiques paysages sont ainsi idéalement utilisés pour marquer cette frontière, ainsi que l'harmonieuse gestion de l'espace des décors pour faire s'entrechoquer toutes ces luttes. Maria de Medeiros construit une épopée intime, passionnante et bouleversante par l'implication de ses personnages, cherchant à embrasser leur destin et en être les maîtres, et les visions oniriques qui invoquent subtilement les plus sombres exactions d'un ordre en place profondément répressif. Toute cette mise en scène se voit récompensée par une conclusion aussi simple qu'évidente, bouclant ses arcs narratifs de la façon la plus belle qui soit. Face aux théories, c'est en définitive toujours la vie qui a le dernier mot. Les ajouts propres à la version sur grand écran de ce récit, comme la course de Vera à travers une fusillade pour prendre connaissance de l'issue d'un accouchement difficile, à la saveur des grands mélodrames qui savaient eux aussi conjuguer la petite et la grande histoire. On pense entre autres à la métaphorique scène de l'accouchement sous les bombes ennemies dans le tout aussi poignant Allié de Robert Zemeckis. Preuve ultime de sa réussite, le film se voit rattrapé lors de sa confection par une réalité politique qui ne lui donne que plus de raisons de briller par sa pertinence.
Et on écoute Maria de Medeiros, la réalisatrice que tu as pu rencontrer.
Ce que je trouvais très intéressant dans la pièce, quand je l'ai découverte, c'est que, wow, quels deux personnages intelligents et quels bons arguments des deux côtés.
Olha, o Antônio falou muito sobre o seu trabalho.
On a fait la pièce pendant 3 ans, donc on a d'intimité, beaucoup d'amitié aussi qui est née. Et puis très vite, je me suis dit, il faut vraiment faire un film de cette pièce, l'élargir le propos. D'autant qu'il y avait beaucoup de personnages dont on parlait dans la pièce et puis on avait envie de les voir. Vanessa, notamment, sa compagne, le père. Voilà. Et moi, je venais d'un film documentaire que je venais de terminer, que Laura avait vu, qui est un long témoignage d'une victime de la dictature militaire au Brésil, d'une femme qui a vécu des choses absolument atroces en prison. Et je me suis rendu compte... D'abord par le récit de Denise Crispin dans ce film qui s'appelle Les yeux de Bakouri. Une des histoires terrifiantes qu'elle m'avait racontées, c'est que donc elle était enceinte quand elle était en prison. Et donc il ne lui appliquait pas des chocs électriques parce qu'elle était très enceinte. Mais une nuit, ils l'ont tirée de sa cellule et l'ont emmenée, elle ne savait pas où. Et puis elle se rend compte qu'elle est jetée dans une cage au lion. Elle dit, je voyais l'animal, je ne sais plus si c'était un tigre ou si c'était un lion, mais voilà, absolument terrifiant. Il la jetait, il la ressortait, il la rejetait à l'intérieur. Et puis par la suite, pour écrire le scénario, j'ai lu beaucoup, beaucoup de témoignages. D'ailleurs, tout ce qui est dans le film est tiré directement de témoignages de survivantes, de femmes qui ont... vécu à la prison, donc je n'ai rien inventé. Et là reviennent les histoires avec des animaux, l'histoire du liquide amniotique qui attire des milliers de cafards qui terrorisent les femmes, enfin, où elles se sentent complètement envahies par les cafards, et l'histoire du crocodile aussi. On prenait un crocodile et le mettait sur le corps des femmes nues, enfin, c'est... Et c'est fou, ces histoires d'animaux qui revenaient en relation avec les femmes. Bon, la première fois, on a lu le scénario avec toute l'équipe. Des gens dans l'équipe disaient, mais c'est quoi ces cafards? Et j'ai dit, mais enfin, c'est l'arrivée du fascisme dans votre pays. Ils ont fait, quoi? Et puis, quelques mois après, voilà, Bolsonaro passait.
C'est un chemin comme ça.
Bolsonaro, il est très en faveur des armes et de la militarisation de la société. Ça fait des années qu'il parle de ça. Et nous, on voulait raconter ça. Enfin, la présence de l'armement, des milices, des affrontements entre police militaire et les trafiquants. Mais enfin, tout se militarise par volonté politique. Oui, ça a proportionné des choses... très étonnante. Par exemple, j'ai appris par la production que à partir du moment où un acteur est costumé en policier et qu'il porte une arme, il devient une cible. On était en effet entouré de favelas. Et donc, c'est un risque énorme pour un pauvre figurant qui arrive. Et donc, on leur remettait les armes à la dernière minute avant de dire action. Et puis, dès qu'on disait couper, on enlève les armes. Et tout. Mais à un moment donné, nos talkie-walkie interfèrent avec les talkie-walkie des trafiquants autour de la favela. Donc, ils commencent à entendre des messages, ils ne comprennent rien, ils ne savent pas qu'on fait du cinéma, parce qu'on essaie d'être très discret, même par rapport à nos camions et tout. Et là, ils entendent « Faites entrer les policiers, donnez-leur les armes. » Et là, ça commence à créer des interférences dans les talkie-walkie. On commence à recevoir des menaces.
É que você já faz parte do livro.
Eu?
Claro.
C'était Maria de Medeiros pour le film « À nos enfants ». Il est en salle depuis le 23 février. Quand un film géorgien est bon, on en parle dans Cinérama, la preuve.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
L'ouverture de Sous le ciel de Koutaïssi, hein, d'Alexandre Kobéridze, épouse les codes de la rom-com traditionnelle avec néanmoins une légère distanciation et un style visuel qui n'emprunte nullement aux conventions hollywoodiennes. Les premiers plans assument un dispositif simple mais efficace. Les visages ne sont pas montrés. Mieux, le cinéaste filme au ras du sol une rencontre, deux pieds de chaque côté, qui se bloque le passage, début d'un coup de foudre instantané entre Georgie, footballeur, et Lisa, préparatrice en pharmacie. L'amour les désoriente tellement qu'ils en oublient de se demander leur prénom, mais conviennent d'un rendez-vous pour le lendemain. Mais le sort va s'acharner sur cette naissance d'un désir hypothétique. Une voix off, alors présente tout le long du métrage, hein, nous interpelle directement avant que Lisa ne s'endorme. Chers spectateurs, fermez les yeux quand vous entendrez le premier signal. Injonction, si l'on peut dire, hein, que l'on exécute sans sourciller, envoûté par ce début très insolite, hein, comme si une forme de magie contaminait les images. Une surprise de taille nous attend lorsqu'on revient au film après quelques secondes via un fondu au noir énigmatique. Tel un conte moderne, le réalisateur joue les illusionnistes substituant les deux acteurs principaux par de nouveaux comédiens. Alors cet effet est d'autant plus déstabilisant que les visages de Lisa et Georgie ont été à peine vus, esquissés rapidement, ne laissant pas au spectateur le temps de s'être habitué. Alors il ne s'agit pas d'un gadget, encore moins d'un twist, puisque ce changement de perspective se met en place au bout de 10 minutes à peine. Les plus distraits pourraient même ne pas s'en apercevoir. Alors passé ce tour de passe-passe, le film continue à surprendre. Lisa et Georgie, avec leur nouvelle tête, se demandent comment ils vont bien pouvoir se rencontrer. Ils sont restés eux-mêmes, n'étant nullement en conflit avec des personnalités inconnues, mais la transformation physique bouleverse leur psychisme, créant une perte de repères. Alors, les premiers signes visibles sont édifiants. Georgie, lors d'une séquence très drôle, ne sait plus quoi faire avec un ballon entre les pieds. De même, Lisa n'arrive plus à déchiffrer ses cours de médecine. Alors, une situation inquiétante, rapidement désamorcée par le réalisateur, introduisant de la poésie, de la fantaisie. L'angoisse liée au regard des autres, qui ne sont pas surpris par la métamorphose physique, mais par l'attitude, est une piste aussi abandonnée, laissant plutôt le récit prendre des chemins de traverse, mêlant un burlesque léger à la Jack Tati, et a progressivement laissé quasi documentaire sur la vie quotidienne de ce petit village georgien. Alors non pas qu'ils vivent dans l'opulence, au contraire, mais ils paraissent heureux dans un vivre ensemble qui pourrait être d'une naïveté pénible si le cinéaste ne nous rappelait pas un petit film dans le film d'une insolente cruauté, que le monde ne va pas si bien en fin de compte. Alors Alexandre Kobéridze a construit un drôle d'ovni attachant et loufoque, dynamisé constamment par un régime d'images et un récit très hétéroclite. Le film revêt la forme d'un film muet moderne où la voix off remplace les cartons et la scénographie en sur-régime du burlesque un peu des années 20, par une nonchalance communicative qui peut, alors en fonction de la sensibilité de chacun, plonger le spectateur dans un ennui irréversible. Alors la mise en scène réactive intelligemment la figure du zoom, assumant son caractère archaïque, et aligne une série de plans larges et rapprochés, admirablement composés et surtout articulés entre eux. Jusqu'à cette séquence étonnante, rompant la rigueur de l'ensemble, le réalisateur filme brillamment un match de foot entre des enfants dans un style assez séduisant, proche du clip où il crée une émotion inédite. Sous le ciel de Koutaïssi, résout son intrigue en laissant sur le bas-côté la fiction incapable de réunir les deux amoureux, invitant le documentaire à clore ce film optimiste et lucide par une belle leçon d'humanité. Alors sans doute l'un des plus beaux et singuliers films de ce début d'année, en dépit de sa durée, alors près de 2h30 quand même.
sous le ciel de Kutaisi, est en salle depuis le 23 février.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine avec un film très attendu, Guillaume.
Attendu ou non, hein, The Batman.
Et toi, Manu, ce sera un film peut-être un peu moins attendu.
Oui, un film social, romantique apparemment. C'est Ali et Ava.
Nous écouterons aussi la réalisatrice de Les Meilleurs. Et puis Marine fera un débrief sur les Césars. Et on verra bien si Illusion perdue, nommée 15 fois, aura au moins un César.